Je fais pas beaucoup de sponsoring sur ce podcast, mais cette fois c'est différent parce que cette fois, le sponsor, bah c'est moi. J'ai une info à vous faire passer. Ma toute nouvelle formation Stratégie Persona est disponible. Stratégie Persona, c'est la solution pour toutes les personnes qui ont du mal à trouver des clients. Toutes les personnes qui ont du mal à définir qui sera leur prochain client. Toutes les personnes qui ont du mal à trouver les mots justes pour parler à leurs clients. Parce que oui, vous savez que mettre vos clients au cœur de votre stratégie, ben c'est ce qui va vraiment faire décoller votre marque. Sauf que c'est pas si simple que ça. Alors j'ai créé tout simplement la formation la plus complète du marché sur le persona. Et je vous fais une promesse, si vous la suivez et si vous l'appliquez, dans une semaine, vous saurez exactement qui est votre client idéal et ce qu'il faut lui dire pour qu'il achète. Stratégie Persona est disponible sur mon site, lepodcastdumarketing.com/stratégie persona. Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 196. Bonjour et bienvenue. Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent pas à pas et très concrètement pour développer votre activité. Est-ce que vous avez une communauté? Quelle taille fait votre communauté? Et puis c'est qui votre communauté? Ce mot de communauté est arrivé chez nous avec les réseaux sociaux. La communauté, c'est les gens qui aiment et soutiennent votre marque. Alors évidemment, elle est importante, hein, cette communauté, même si elle est virtuelle et qu'en général, ben, on n'a rencontré aucun de ses membres. Mais justement, ben, si c'est virtuel, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on peut compter dessus? Est-ce que ça vaut le coup de construire une communauté? Et puis d'ailleurs, ben, comment est-ce qu'on fait pour construire cette communauté? Alors ne cherchez pas plus loin pour répondre à toutes ces questions. Ben, évidemment, je suis allée chercher la pro des communautés. Alors pour avoir longuement discuté avec elle, et quand je vous dis longuement, je vous passe les 2 heures d'enregistrement que j'ai perdu il y a quelques années quand on a échangé pour la première fois, je parle bien de 2 heures, hein. Donc pour avoir longuement, très longuement discuté avec elle, je peux vous dire qu'elle se lève, qu'elle mange, qu'elle dort et littéralement qu'elle respire communauté. Ce mot est au centre de tout ce qu'elle fait, j'ai nommé Noémie Kempf. Elle vient d'ailleurs de sortir un livre sur le sujet des communautés et elle est également la créatrice du podcast The Storyline. Et je l'ai invitée aujourd'hui pour qu'elle nous décortique tout ce qu'elle sait sur la communauté et comment on la construit. Je vous propose d'accueillir tout de suite Noémie Kempf. Bonjour Noémie et bienvenue sur le podcast du marketing.
Salut Estelle et merci de ton accueil.
Je suis super heureuse de t'avoir sur le podcast. Pour la petite histoire, je le dis pour les auditeurs, les auditrices de ce podcast, ça fait, on peut le dire, des années qu'on essaye d'enregistrer ensemble. On avait enregistré il y a 2 ans ?
2 ans, ouais.
On avait enregistré ensemble 1 heure ou 2 heures de podcast, je sais plus. Un truc de fou, je crois que c'était mon plus long épisode.
Ah, c'était passionnant.
C'était trop bien. Je sais plus exactement ce qu'on s'était dit en plus, mais je me souviens que c'était génial ce qu'on avait fait. Bon, bref. Et j'ai perdu les pistes. Voilà. Donc, le gros fail, c'est peut-être un de mes plus gros fails sur le podcast. Et puis finalement, la vie a fait qu'on a été très, très occupés. Et toi et moi, on n'a pas eu le temps de refaire un épisode. Mmh. Et tu m'as recontacté là, il y a peu de temps, pour parler d'un sujet, moi, que j'aime beaucoup, beaucoup et que je trouve assez complexe. Donc, je suis très contente d'en parler aujourd'hui avec toi. C'est le sujet des communautés. Alors, on va en parler en détail, mais juste avant de rentrer dans le sujet, est-ce que tu peux nous dire, Noémie, pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas, parce que tu es également podcasteuse, donc il y a probablement plein de gens sur le podcast qui te connaissent, mais pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais?
Bien sûr. Je m'appelle Noémie, j'ai 33 ans et aujourd'hui j'ai 2 casquettes principales. La première, c'est que je suis la créatrice de The Storyline, qui est un podcast et une newsletter qui sont dédiés à l'exploration des nouvelles tendances et sociologiques, économiques, politiques, culturelles qui influencent les stratégies de marque et le futur de la consommation. Et en parallèle, je suis aussi la cofondatrice de Communo, qui est la première école francophone du community building. Et le community building, justement, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'art de créer et d'animer des communautés. Donc avec Communo, on va vraiment former des gens, des indépendants, des marketeurs, des communicants, des entrepreneurs qui veulent mettre la communauté au cœur de leur modèle économique et au cœur de, bah, des préoccupations de leur développement et de leur stratégie marketing. On accompagne aussi des entreprises de manière un peu plus individualisée dans leurs problématiques communautaires. Et plus récemment, et c'est le sujet qui nous a rassemblés aujourd'hui, j'ai écrit et publié un livre qui s'appelle « Le pouvoir des communautés » justement, qui est sorti très très récemment et qui est un petit peu une espèce de résumé de ces dernières années que j'ai passé vraiment le nez dans des centaines de différentes communautés, à parler à des centaines de personnes qui en ont fait leur métier justement de l'animation communautaire, ou des sociologues, des psychologues, des entrepreneurs. Et donc voilà, ce livre, c'est un joyeux résumé et une théorisation justement de tout ce que j'ai pu apprendre sur le tas, qui vise à aider les entrepreneurs, mais aussi les communicants, les marketeurs, les créateurs, finalement en fait tous les gens qui ont envie de donner plus de place à leur communauté, et je dis bien communauté et non pas à leur audience, ou bien à transformer leur audience en communauté dans le cadre de leurs objectifs professionnels ou personnels.
Et bien alors justement, moi c'est une question que je me suis toujours posée et qui n'est pas bien claire, je t'avoue, dans mon esprit. C'est quoi la différence entre audience et communauté? Est-ce qu'il y a une différence? Tu as l'air de dire qu'il y en a une. Et c'est quoi cette différence?
Carrément, il y en a une. En tout cas, nous, c'est de ce principe qu'on part justement dans notre enseignement chez Communo. Et c'est ce que je répète très souvent aux personnes que j'accompagne, que je coach, parce que je fais pas mal de coaching d'entrepreneurs. Souvent, les gens arrivent et nous disent « Ah bah oui, on a une communauté hyper, hyper active sur Instagram ou sur TikTok. » Et en fait, ils ont justement, c'est la première chose qu'on essaye de préciser avec eux, c'est que les gens qui vous suivent sur les réseaux sociaux ne sont pas une communauté, en tout cas pas une communauté comme nous on l'entend au sens théorique et professionnel du terme, entre guillemets. Quand on anime une communauté sur Instagram, on n'est pas forcément community builder, même s'il y a des exceptions. Je m'explique. En réalité, sur les réseaux sociaux, généralement, la relation entre les followers et la marque, elle est très descendante. On a une marque qui a des messages qu'elle va faire passer ponctuellement sous plein de formats différents, des stories, des posts, des questionnaires, des lives, etc. Et on a des individus, des followers généralement, qui vont interagir potentiellement avec les contenus produits par la marque et ses prises de parole sous forme de, je sais pas, de likes, de commentaires, de partages. Mais ça reste une relation qui est très unilatérale et qui est très dépendante de la marque finalement. Et c'est très difficile de récupérer de l'engagement. Enfin, c'est en tout cas, et on peut en reparler après si tu veux, de plus en plus difficile de récupérer de l'engagement sur les réseaux sociaux. La communauté, elle répond à des logiques un peu différentes et à des dynamiques conversationnelles et de création de valeur qui sont pluripartites. Alors, ce mot est un peu complexe, je sais. Mais au lieu d'imaginer la relation entre la marque et l'individu comme une relation à sens unique ou bien à double sens, mais simplement du haut vers le bas, entre guillemets, de la marque vers l'individu ou du bas vers le haut de l'individu vers la marque, la communauté, elle crée une espèce de triangle. Et au lieu d'uniquement communiquer avec la marque, si on en a envie, ou d'interagir avec la marque, quand on est dans une communauté, on va interagir avec les autres membres de la communauté, avec les autres humains. Et on va créer de la valeur avec ces gens-là. On va créer des conversations, on va partager des conseils, des expériences de vie, des témoignages, etc. Et du coup, c'est vraiment le passage du top-down, entre guillemets, à cette espèce de triangle conversationnel où la marque continue de prendre la parole potentiellement sous l'égide du community builder. Donc, elle est un peu incarnée sous la forme d'un être humain, théoriquement. On ne sait pas. Il n'y a pas encore de robots.
On ne sait plus maintenant.
On ne sait plus. Mais normalement, il y a un être humain qui va créer une espèce d'échelon intermédiaire entre la marque et la communauté, et qui est le community builder, qui va animer les conversations, les lancer, mais qui va aussi permettre aux individus qui sont dans la communauté de prendre de plus en plus de place, de devenir eux-mêmes des ambassadeurs, de s'impliquer, de lancer des conversations, de créer du contenu, etc., etc. Et donc du coup, au lieu d'une simple ligne de conversation entre marque et individu, au pluriel, on a des conversations multiples entre des groupes, des individus, une personne et une autre, une dizaine de personnes, la marque et un petit groupe, etc., etc. Et c'est ça qui fait vraiment la valeur de la communauté, c'est cette multiplicité des interactions et de la valeur qui est créée au sein de ce groupe engagé.
Oui. Du coup, je comprends bien la différence que tu mets entre audience et communauté, c'est qu'effectivement, ce qu'on met derrière audience, en général, c'est, on pense souvent aux réseaux sociaux, d'ailleurs, il n'y a pas que les réseaux sociaux, mais on pense bien souvent en premier lieu aux réseaux sociaux, c'est, on imagine une marque ou une personne qui incarne la marque, peu importe, et puis on va aller regarder combien de followers elle a. Bon, on a 10 000 followers, mettons, sur, je sais pas, Instagram, on se dit, ah ben voilà, j'ai une audience, c'est-à-dire des gens qui vont entendre notre message de 10 000 followers, mais là, ce que tu nous dis, c'est que les 10 000 followers, ça n'est pas une communauté dès lors qu'ils ne font entre guillemets, suivre la personne, voire interagir avec la personne. Ce qui fait la communauté, c'est que tout le monde interagisse avec tout le monde finalement et qu'on ait un petit monde comme ça qui presque vive tout seul. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que finalement, ça veut dire que, bien sûr, j'imagine la marque joue un rôle et impulse un certain nombre de choses, mais est-ce que ça veut dire que les discussions, l'apport de valeur, toutes ces choses-là, vivent sans nous, sans la marque ?
Oui, et alors ça, c'est peut-être la dernière étape. Et avant ça, je suis peut-être allée un petit peu vite sur la notion de valeur. Justement, tu parlais des 10 000 followers sur Instagram. Dans ces 10 000 followers, il n'y en a que très peu qui vont interagir avec la marque, qui vont réagir aux posts, qui vont réagir aux messages, qui vont répondre au call to action, parce que finalement, l'entreprise a quand même, la marque a quand même des objectifs, qui soient des objectifs de notoriété ou de conversion ou de rétention, mais donc des KPIs et des objectifs business clairement assumés. L'audience, c'est quand même assez difficile de la faire aller dans le sens où on veut la faire aller et de faire cliquer, de faire acheter, parce que bah, finalement, c'est généralement l'objectif d'une entreprise de vendre ses services ou ses produits. La communauté, justement, ces dynamiques de création de valeur, elles vont dans les deux sens, enfin, ou même dans les six sens finalement, puisqu'il y a trois entités intégrées. Mais la marque, elle va créer de la valeur pour la communauté dans le sens où elle permet à la communauté d'exister et donc elle crée cet espace où les gens vont pouvoir échanger. La communauté, elle va créer de la valeur pour la marque en créant une forme de légitimité, en augmentant le capital de marque éventuellement, et on en reparlera justement plus tard. Mais du coup, la communauté sert les objectifs business de la marque, que ce soit son rayonnement marketing ou sa capacité à générer des ventes. Pour les individus, c'est pareil. Les individus, vont créer de la valeur entre eux en s'échangeant des conseils, des tips, etc., en se soutenant. Et ensuite, ils vont eux-mêmes créer de la valeur directement pour la marque, potentiellement en devenant ses clients ou en se constituant en tant qu'ambassadeur, en faisant la promotion directement auprès de leur propre réseau. Et donc, du coup, c'est ça que j'entends quand je fais la distinction entre une audience ou un followership qui est très statique, qui est très passif et qui peut être engagé mais de manière très difficile, et on sort généralement les rames quand on veut engager ses followers sur Insta ou sur TikTok ou sur LinkedIn, quoique ça se débat, alors que la communauté, il y a vraiment, elle est construite autour de ses objectifs business qui sont clairement assumés, et de cet équilibre donnant-donnant, gagnant-gagnant. La marque amène de la valeur et les individus amènent de la valeur aussi.
Mais du coup, tu vois, ça me fait poser une question de lieu. Est-ce que ça veut dire que pour animer une communauté, il faut être ailleurs que sur le fil de son Insta ou le fil de son LinkedIn ? Est-ce que, je vais au fond de ma pensée, est-ce qu'une communauté, ça doit s'animer sur un groupe fermé parce que les membres de la communauté vont se sentir en sécurité, vont pouvoir échanger, etc., librement. Est-ce que ça nécessite un lieu comme ça ?
Excellente question. Et justement, ça nous permet peut-être de boucler le sujet de la définition de la différence entre audience et communauté. Justement, oui, on a tendance à dire qu'une communauté, peut très difficilement exister sur un réseau social. Pourquoi ? Bah parce que déjà, parce que les réseaux sociaux suivent un modèle économique qui n'est pas aligné avec les objectifs économiques des entreprises. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, leur objectif, c'est de maximiser le temps passé des utilisateurs sur leur plateforme. Et donc, pour ce faire, ils vont être très sélectifs, les algorithmes vont être très sélectifs dans le contenu qui est proposé aux individus. Et ça va potentiellement les enfermer dans des bulles de filtres. Mais la marque n'a aucun contrôle et ne peut pas savoir qui voit ces publications et quand. Donc, c'est très difficile de créer un lien avec sa, déjà son audience, mais encore plus avec une communauté sur un réseau social, parce que en fait, finalement, les algorithmes ont des objectifs qui sont différents des nôtres et qui ne sont généralement pas vraiment conciliables avec des objectifs communautaires, parce que l'algo n'a aucun intérêt à uniquement montrer les posts de telle ou telle marque à des utilisateurs, parce qu'en général, ça ne va pas avoir pour conséquence de maximiser son temps passé sur la plateforme. Et en parallèle de ça, en effet, pour revenir à ces notions de conversation entre les individus, de création de discussion, de création de valeur, un réseau social, c'est quand même quelque chose qui permet des conversations unilatérales ou privées, mais très peu de débats, de discussions, d'interactions, de segmentation des conversations, etc. Et donc, pour ce faire, en effet, quand on veut passer d'une audience à une communauté, on va avoir tendance à aller sur un outil qui est différent. Pas forcément fermé, l'outil peut être ouvert, mais ça doit être un outil qui permet des conversations, des créations de groupes et des conversations individuelles.
T'as quoi comme outil c'est quoi? C'est Discord, c'est WhatsApp, ouais. C'est quoi?
Par exemple, alors très souvent dans le community building, on a des réponses un peu de normand, on dit ça dépend de la communauté. mais du coup, il y a des outils en effet qui ont été détournés et qui sont très adaptés à l'animation communautaire. Et on a notamment Slack qui a eu de belles années ces derniers temps, qui permet de créer des channels spécialisés, de créer de l'interactivité, de créer des rituels de la récurrence dans les conversations. Et d'avoir des conversations individuelles aussi, et qui est très adapté à un public qui est quand même appétant à tout ce qui est outils tech. Il y a aussi bien sûr Discord depuis 2-3 ans qui monte à toute vitesse, sur lequel beaucoup de communautés sont hébergées. Initialement, c'était très très empreint d'une teinte gaming, Web3, crypto, mais aujourd'hui il y a pas mal de communautés qui migrent sur Discord parce que l'outil est assez intéressant et permet de créer des conversations à la fois à l'écrit mais aussi en vidéo ou juste en audio, tout ça en synchrone et ou en asynchrone. Et puis ensuite il y a d'autres outils comme les groupes Facebook par exemple, les groupes WhatsApp, qui ne sont pas forcément très adaptés pour des grandes communautés, mais pour des petites communautés sur des temps courts, par exemple. Et ensuite, il y a toute une génération de nouveaux outils qui arrivent, qui ont été créés et pensés pour permettre à des communautés de vivre et de se développer. Comme par exemple, j'ai en tête un des leaders sur le marché, ça va être Circle.
D'accord. Ok, super intéressant. Je mettrai toutes tes références sur les notes de l'épisode, parce que je trouve ça chouette aussi d'aller, tu vois, Circle, je connais pas, d'aller tester ou en tout cas d'aller regarder ce que sont ces nouveaux outils pour ne serait-ce que savoir si ça peut nous plaire, pas nous plaire.
Carrément. Et je me permets peut-être juste de conclure là-dessus. C'est pas pour autant qu'il faut faire l'impasse sur les réseaux sociaux. Je pense qu'en fait, tu peux voir ta stratégie communautaire comme une stratégie à plusieurs échelons, un peu comme un funnel finalement, étant dans l'inbound, j'imagine que les auditrices et les auditeurs connaissent. Mais l'idée, c'est que sur les réseaux, tu vas avoir de la visibilité et potentiellement un reach qui est conséquent. Et tu vas pouvoir atteindre nouvelles personnes et leur faire découvrir que tu existes. Mais si tu veux créer de la récurrence et des conversations, il y a forcément un moment où tu vas devoir passer à un échelon plus intime et plus adapté, qui est ton espace communautaire. Et c'est souvent ce que font même les créateurs, les influenceurs qui monétisent leur communauté.
Mais alors, tu vois, c'est là où, j'arrive pas à conclure ce point, mais c'est vraiment intéressant, mais c'est là où je vois une barrière, moi, je vois une espèce de chaînon, de maillon manquant qui fonctionnait, j'ai l'impression, pas mal avec les Facebook groupes, Facebook et les groupes fermés de Facebook, pardon. C'est que t'es sur ton réseau. tu as ton audience donc qui te suit, alors qui ne voit pas tous tes posts, mais qui te suit quand même sur le réseau. Tu les emmènes vers le groupe fermé. Une fois qu'ils sont dans le groupe fermé, ils ont les notifications, etc. Ils savent quand il y a des éléments nouveaux qui sont publiés. Quand tu emmènes les gens sur Slack, sur Discord ou sur je ne sais quoi, tu les déconnectes finalement du réseau et donc tu déconnectes ce reach et cette capacité à pouvoir leur envoyer cette notification, ou en tout cas, c'est pas tant la difficulté à leur envoyer la notification, c'est que sur le réseau social, alors c'est peut-être de moins en moins vrai avec Facebook d'ailleurs, mais tu sais que ces personnes-là vont y aller tous les jours, voire plusieurs fois par jour, voire plusieurs fois par heure, donc qui vont être quand même un minimum captifs à l'outil. Quand tu passes sur Slack, si ton audience, ta communauté est très active sur Slack, ils vont avoir Slack ouvert en backup sur leur ordinateur. Si c'est pas le cas, ça me semble difficile de les faire revenir sur la communauté. Est-ce que j'invente cette problématique, ou est-ce qu'il y a une vraie problématique de gap entre l'audience et la communauté?
Pas forcément. J'essaie de trouver la meilleure manière de répondre à ta question, parce qu'il y a beaucoup de choses et beaucoup de facettes. Premièrement, je pense qu'entre l'audience et la communauté, il y a une différence dans l'intention. La communauté, elle n'existe pas juste pour faire revenir les gens jour après jour. Contrairement à un réseau social qui, justement, n'a pas des objectifs, enfin, des objectifs un peu larges, et ton objectif est de maximiser le fait que tes followers reviennent et soient exposés à tes contenus. Dans la communauté, et on va y venir après si tu veux, les objectifs sont différents, et les gens vont revenir jour après jour dans la communauté sur l'outil spécifique parce qu'ils ont des objectifs précis et ils ont des besoins, entre guillemets, auxquels la proposition de valeur de la communauté va répondre, qui est différent de la proposition de valeur de la marque et de l'entreprise. Et du coup, c'est beaucoup plus engageant. Parce que les gens savent exactement pourquoi ils se connectent, alors que sur Insta, ils scrollent un peu de manière réflexive. Je ne sais pas si ça se dit réflexive, mais en tout cas, par réflexe, justement, tu vas te connecter et tu scrolles, tu regardes, tu es là, éventuellement, tu likes un post, mais au fond, on ne va pas se mentir, tu t'en fous. Enfin, tu es juste là pour passer le temps, ou parce que ton cerveau a besoin de tes petites doses de dopamine. Tu ne vas pas par intention de te dire « Oh, qu'est-ce qui se passe dans ce... quels sont les updates de cette marque ? Oh là là, j'ai vraiment envie de savoir. Oh mon Dieu !» Non, personne ne se dit ça, honnêtement. C'est plus un heureux hasard que les gens soient confrontés à tes contenus sur les réseaux sociaux. Alors que dans la communauté, y a une stratégie d'animation, une stratégie d'engagement, et les gens sont là parce qu'ils ont un besoin ou une envie ou un intérêt auquel la communauté répond.
Ouais, donc c'est beaucoup plus fort en fait. On n'est plus du tout sur le même niveau. Mmh. Ouais, tout à fait. Ok. Du coup, j'allais te poser la question pourquoi c'est important, mais est-ce qu'on n'y a pas répondu alors finalement ? Est-ce que c'est pas l'importance ? Est-ce que c'est pas le fait que tu crées un lien avec, j'allais dire, ton audience, avec une part de ton audience qui finalement est beaucoup plus fort ? C'est ça le véritable intérêt de la communauté ?
Absolument, et je pense que pour remettre ça en contexte, c'est quelque chose dont je parle beaucoup dans mon livre. Tu as un podcast sur l'inbound marketing, tu n'es pas sans le savoir. Aujourd'hui, on est dans un monde qui change énormément et dont les codes de la vente et du marketing ont beaucoup évolué sur les dernières années et évolue de plus en plus vite. Tous les ans, il y a une nouvelle tendance et on nous rabâche, genre il faut absolument mettre ça dans sa roadmap marketing. Si tu ne fais pas de l'automation, du growth, du sponsoring, blablabla, tu vas dans le mur. Donc il y a beaucoup de nouveaux codes et de nouvelles pratiques. Mais globalement, quelque chose que je pense qui est très important de comprendre, c'est qu'on entre dans une... et c'est pas forcément très positif, mais on est déjà entré d'ailleurs dans une sorte de crise de la confiance, en tout cas moi je l'appelle comme ça. Les marques ont grandement abusé des pratiques un peu douteuses, un peu border sur les 10-15 dernières années. Je pense notamment au dropshipping, au phoning, au harcèlement des gens, que ce soit par téléphone, par email, par SMS, aux fraudes type CPF, etc. C'est des pratiques qui ont bien marché dans leurs premières années, mais dont tout le monde s'est emparé, qui ont été vraiment passées à l'échelle et que les gens tolèrent de moins en moins. Par exemple, je crois que, si je ne dis pas de bêtises, aujourd'hui, il me semble me souvenir qu'il y a quasi 30% des internautes qui utilisent un bloqueur de publicité. Et quand on va chez les plus jeunes, les 15-25 ans, ça passe à plus de 40%. Donc les gens sont de moins en moins tolérants de l'intrusion des marques. Parce que finalement, c'est ça, c'est perçu comme de l'intrusion quand on est une entreprise ou un créateur, un entrepreneur et qu'on fait passer un message, très souvent. C'est très souvent moyennement bien accueilli. Et en plus de ça, les gens sont dans une situation de défiance, de méfiance. On le voit notamment avec toutes ces levées de boucliers, surtout sur la dernière année, et ces accusations dont beaucoup de marques ont été victimes de greenwashing, ou en tout cas de malhonnêteté. Donc, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on est dans un rapport d'antagonisme assez fort entre marques et consommateurs, qui ne va pas aller en s'améliorant, je pense, tant que les entreprises ne repensent pas leur stratégie. Et justement, la communauté, c'est une manière de remettre beaucoup d'humain, beaucoup d'authenticité, ce qui est quand même un facteur important aujourd'hui dans la capacité qu'on va avoir de fidéliser ces consommateurs et de leur vendre nos produits ou nos services. Et la communauté, c'est une sorte d'échelon intermédiaire entre la marque et l'individu, qui recrée ce rapport de confiance, qui remet du lien humain, qui remet de l'émotion, jour après jour, contenu après contenu, parce que on en reparlera, mais dans une communauté, ça n'existe pas uniquement à travers des conversations, il y a aussi des stratégies d'animation, il faut créer de la valeur, des ressources, du contenu, etc. Mais en tout cas, je pense que du coup, la communauté est importante pour ça, parce que finalement, c'est une des stratégies les plus efficaces et les plus pérennes dans un monde où on est sur des enjeux de création de liens dans la durée. On n'est plus sur de la vente one shot, un peu crado, à la dropshipping. Enfin, en tout cas, c'est ma conviction. Ou en tout cas, on en est de moins en moins là. Et que du coup, la confiance, l'authenticité, le lien humain sont de plus en plus importants. Et finalement, c'est un petit peu la base de la communauté.
Bon, mais ça tombe très très bien. Mais alors du coup, je t'écoute, je me dis, mais elle a totalement raison. Enfin, je bois tes paroles, Noémie, mais je fais comment? Je fais comment, moi, demain, là, je vais monter une communauté? Je crois que t'as un modèle, toi, dont tu parles dans ton livre. Tu peux nous en parler un petit peu?
Carrément. Merci de boire mes paroles. du coup, il y a en effet un ensemble d'étapes assez précises. Et justement, c'est la beauté du métier de community builder, parce que la communauté, c'est vieux comme le monde. Les communautés existent depuis la nuit des temps. Mais très souvent, et ces 10-15 dernières années, les gens ont créé des communautés un peu sans le savoir. Et très souvent, vous qui nous écoutez, si ça se trouve, vous avez peut-être une audience et vous avez peut-être une communauté et vous faites peut-être des choses. Mais il est très probable que vous les faites sans vraiment savoir où vous allez, sans mesurer le ROI, sans avoir d'objectif clair. Et du coup, ça m'amène à mon premier point. Pour créer une communauté, et c'est vraiment la première chose qu'on apprend dans la formation Communo, il faut avoir un objectif clair. C'est tout bête, mais c'est comme quand on se lance dans le marketing. Très souvent, les entrepreneurs, notamment, vont avoir tendance à se dire « il nous faut un blog, il nous faut un compte Insta, il nous faut une présence sur TikTok et sur LinkedIn, il faut qu'on fasse des posts ». Mais après, quand on creuse et qu'on leur dit « ok, très bien, mais quel est ton funnel ? Quelles sont les étapes après cette création de contenu et cet objectif de visibilité ?» Généralement, les gens sont un peu en mode genre « je sais pas trop, on m'a juste dit qu'il fallait ça, donc je crée et je vois ce qui se passe ». La communauté, c'est pareil. En fait, c'est bien d'avoir des gens qui vous suivent ou qui sont, réceptifs à votre proposition de valeur. Mais en fait, derrière, il faut savoir concrètement comment vous les intégrer dans votre développement, vos objectifs de développement et votre modèle économique. Et du coup, il y a plusieurs modèles qui existent en ligne. On peut plutôt aller trouver du côté des États-Unis parce que les États-Unis sont très souvent en amont de phase sur nous, sur ce type de discipline, ou en tout cas sur la théorisation de ce type de discipline, notamment le community building, même si ça arrive en France et qu'on essaye avec Communo de faire en sorte que ça soit une discipline de plus en plus structurée et reconnue. Et du coup, je me suis dit, et si j'essayais pas de réfléchir à moi-même à un modèle conceptuel qui soit simple à comprendre. Et alors, je me suis pas mal cassé les dents dessus, mais j'ai fini par arriver sur un modèle assez simple, mais qui, selon moi, est quand même assez efficace, que j'appelle le modèle BRP. Brand Equity, Revenue et Produits, qui sont selon moi les trois grands piliers de l'entreprise qui vont être impactés par la création et le développement d'une communauté. Et je pense que chaque projet communautaire devrait partir d'un de ces trois piliers. Et je les vois même pas forcément comme des piliers, mais plutôt comme des pétales qui se chevauchent. Parce que plus on avance dans le développement de sa communauté, plus la communauté va servir non pas un seul de ces pétales slash piliers, mais va finalement déborder sur plusieurs. Et typiquement, on peut partir d'un objectif de développement de son capital de marque et de notoriété qui soit alimenté et nourri par la communauté. Mais petit à petit, si on donne de la place aux membres de sa communauté, rien n'empêche qu'ils finissent par avoir aussi une place dans la génération du revenu et du chiffre d'affaires, voire dans le développement de la roadmap produit. Donc en gros, l'idée est de commencer d'entrer par une de ces trois portes qui sont simples à comprendre et simples à, je pense, agencer dans un... dans une roadmap marketing ou bien dans un modèle économique. Et puis petit à petit, bah, si on voit que ça marche, si on a une communauté qui s'engage, qui est motivée, rien n'empêche, et au contraire c'est encouragé, de lui donner de plus en plus de place et de poids dans les décisions stratégiques sur les autres piliers. Et du coup, oui, pardon.
Oui, non, pardon, quand je t'écoute, c'est marrant, tu vois, je pense, j'y avais pas du tout, on n'en a pas parlé en off, mais je pense aux entreprises mutualistes. En fait, j'ai le sentiment que ce que tu es en train de me dire là, avec ces pétales qui se chevauchent et donner de la place à la communauté sur des points qui sont quand même des éléments fondateurs de l'activité d'une entreprise, à savoir le brand equity, revenu, produit, tu es quand même sur les trois, pour le coup, les trois piliers d'une entreprise. Ouais, ça me fait penser un petit peu à ces modèles mutualistes qu'on peut avoir dans les assurances parfois, par exemple, où eh bien les personnes qui peuvent être à la fois clientes de l'entreprise, de l'assurance, puisque c'est à ça que je pense, eh bien vont avoir leur mot à dire aussi sur ce qui va se passer au sein de l'entreprise, les décisions stratégiques, peut-être les produits qui vont être proposés, des choses comme ça. Est-ce que ça rentre un petit peu dans ce schéma-là ou est-ce que là je vais trop loin?
Non, c'est hyper intéressant et en effet d'ailleurs c'est encore un signe que le marketing communautaire a de beaux jours devant lui. On voit de plus en plus de modèles économiques qui sont collaboratifs et qui redonnent à la communauté une forme d'incentive à son engagement. Je pense que c'est un peu le top niveau. C'est pas forcément obligatoire d'aller jusqu'à la coopérative typiquement, même si c'est des modèles super intéressants. Je pense que c'est un peu l'aboutissement de l'expression d'une stratégie communautaire si on a envie d'y aller et on n'est pas obligé. Typiquement, tu vois, si tu veux mettre ta communauté au service de ton capital de marque, de ta brand equity, tu peux très bien le faire sans lui donner un pouvoir décisionnel dans ce capital de marque. Même si, du coup, de facto, en déléguant, tu acceptes que ton capital de marque va un peu être pas diffusé, mais plutôt
Dilué,
exactement, merci, je cherchais le mot, dilué et va finalement prendre une multitude de formes auprès de ta commu, mais je pense qu'un exemple peut être bien, je pense notamment à, j'aime beaucoup l'exemple de Chiloé, je sais pas si tu connais. Non,
okay, non, je ne connais pas.
Alors, Chiloé, c'est un des leaders en France aujourd'hui de la micro-aventure. Et il y a quelques années, il y a peut-être 5 ans, c'était tout simplement une newsletter et des groupes Facebook de passionnés de nature, de rando, de vélo, d'activités sportives en nature qui se partageaient des conseils et des bons plans de micro-aventure justement. Et c'était cadré par la marque Chiloé, du coup, qui partageait des conseils et des micro-aventures toutes faites. Et en gros, l'idée de Chiloé, c'était que le marketing est plus ou moins, et de plus en plus, c'est quelque chose qui a été structuré d'année en année, délégué à la communauté, entre guillemets. Je m'explique. Autant au début de l'existence de Chiloé, c'était les cofondateurs qui rédigeaient la newsletter, qui partageaient des plans de micro-aventure, qui contribuent à vulgariser cette notion de micro-aventure. Je n'ai pas précisé ce que c'était. La micro-aventure, c'est en gros une pratique qui a été, je crois, poussée par un Britannique qui, en gros, partait du principe qu'on pouvait vivre des aventures sans forcément aller à l'autre bout du monde, qui était assez engagé, justement, vis-à-vis de son empreinte carbone. Et donc, la micro-aventure, ça consiste à se dire, OK, bon, j'habite à Paris, je vais aller faire, je sais pas, du bivouac à 1 heure de Paris, dans la forêt, ou bien du kayak, pas trop loin. Donc, c'est l'idée de faire bien et intensément, mais, mais pas trop loin et sans avoir un gros impact sur l'environnement. Et donc, du coup, au début de l'existence de la communauté, c'était vachement les cofondateurs qui créaient du contenu, qui créaient cette dynamique et cette motivation autour de la micro-aventure. Mais très vite, du coup, les membres de la communauté se sont retrouvés dans la proposition de valeur. C'était eux aussi des passionnés de nature, de rando, de sport, etc. Et donc, ont de plus en plus pris le lead, entre guillemets, sur la création de contenu. Et typiquement, aujourd'hui, toutes les micro-aventures qui sont publiées sur Chiloé, dans la newsletter, sur le site, sur les comptes, les réseaux sociaux, etc., c'est des micro-aventures qui sont rédigées par des membres, qui sont ensuite relues par... une personne de chez Chiloé pour homogénéiser justement le propos et la tonalité éditoriale. Mais c'est vraiment du contenu spontanément généré par les utilisateurs et les membres de la communauté. Et le compte Instagram, typiquement, l'ensemble des visuels, c'est des visuels qui ont été créés par des membres de la communauté également, des photographes, des sportifs, etc. Et qui sont relayés par Chiloé, qui, encore une fois, dont les responsables marketing ont pour mission d'homogénéiser, de remettre typiquement, j'en sais rien, si c'est un carré rouge sur toutes les micro-aventures, ils remettent un carré rouge pour avoir cette cohérence visuelle et éditoriale. Mais le contenu est poussé, porté, créé par les utilisateurs. Et c'est ce qu'on appelle le user-generated content, que tu dois déjà bien connaître, j'imagine. Bien sûr. Et qui est un des piliers de la stratégie communautaire, typiquement. Une stratégie communautaire bien faite permet de déléguer à ses membres pas mal de choses.
Mais c'est du user-generated content très poussé chez Chiloé. Parce que quand on pense user-generated content, en général, on pense témoignage. J'ai posté un témoignage en disant j'ai essayé telle marque, le produit est super bien, allez-y go. Et c'est déjà vachement bien. Là, c'est un peu un rêve que tu me décris, c'est-à-dire que la création de contenu, et on le sait, la création de contenu, quand je parle d'inbound, on le connaît, ça prend un temps de dingue, ça prend une application de dingue, ça demande une expertise aussi importante, d'avoir cette création de contenu réalisée, poussée, portée par la communauté. C'est un rêve, quoi. C'est assez génial.
Carrément. Bon, alors, en effet, là, j'ai donné le bon exemple qui va bien, etc. Et du coup, Chiloé a quand même l'avantage d'être une marque B2C qui est une communauté et aussi une communauté de passionnés de quelque chose qui est très sexy et qui visuellement rend très bien sur Instagram, c'est-à-dire la nature. mais du coup, c'est des choses qui peuvent marcher dans plein de secteurs d'activité différents. Pourtant qu'on prenne le temps de comprendre comment on peut apporter de la valeur à ses membres et comment ensuite eux peuvent partager la valeur qu'ils ont retirée de leur adhésion à la communauté. Mais il y a toujours une manière de le faire dans l'approche communautaire.
Non, mais c'est extrêmement intéressant effectivement de se dire, ne serait-ce que de se poser la question de savoir comment est-ce que je peux faire participer complètement. Mes clients, les gens qui m'entourent, les gens qui sont intéressés par ce que je fais, comment est-ce que je peux les intégrer finalement à l'histoire de la marque. Enfin, c'est même plus que l'histoire de la marque, mais voilà, les intégrer au quotidien de la marque.
Et c'est l'idée, et c'est vraiment cette notion de capital de marque, et tu peux les intégrer également d'autres manières, si tu n'as pas le temps, la compétence, l'expertise ou l'envie de les intégrer à ton image de marque, parce que ça peut être quelque chose que tu veux garder sous contrôle et qui est très policé, etc., que ce soit par impératif ou par stratégie. Mais tu peux également les intégrer à tes stratégies de génération de revenus ou à l'évolution de ton produit. Et encore une fois, du coup, c'est des choses qui sont encore un peu plus... Est-ce que j'ai envie de dire risquées, qui sont encore plus engageantes, mais typiquement en termes de revenus, un exemple que j'aime beaucoup donner, c'est celui de la marque Tupperware, qui finalement a basé son modèle économique sur la capacité à créer une approche qu'on appelle multi-level marketing, marketing multiniveau, et donc à créer une communauté d'ambassadrices, parce que c'était plutôt des femmes, on va pas se mentir, dans les années 70, si je dis pas de bêtises, qui étaient des consommatrices de la marque, qui étaient plutôt fans de la marque, et qui finalement étaient aussi des apporteuses d'affaires et des revendeuses de ses propres produits, et donc qui avaient assez de marge de manœuvre pour organiser à leur niveau local des groupes de parole, des micro-communautés, entre guillemets, finalement des sous-segments de la communauté, des groupes de femmes qui se réunissaient pour échanger des conseils de cuisine, un peu pour raconter leur vie, c'était des moments assez informels. Tout en vantant les mérites des produits de la marque Tupperware.
Ouais, donc tu vois, c'est le bon exemple, parce que Tupperware, ça date quand même un peu, pour voir que travailler sa communauté au sein et pour le bénéfice finalement d'une entreprise, et pas juste parce que c'est sympa d'avoir une communauté et que ça fait bien de dire « regardez comme ma communauté me suit », finalement, ça n'a rien de nouveau, si ce n'est que on l'a pas tant utilisé que ça, finalement, en marketing. C'est un petit peu quelque chose qu'on a parfois laissé de côté. J'ai l'impression, à cause des réseaux sociaux, parce que c'était très intéressant ta différenciation entre audience et communauté, peut-être parce que, finalement, on confond ce qu'est audience et communauté. On a un petit peu oublié les communautés.
Peut-être, mais peut-être aussi, je pense que c'est quelque chose de finalement, le marketing, tu le sais, est quelque chose d'assez cyclique. Et finalement, avant que l'inbound revienne sur le devant de la table, c'était un peu l'âge d'or de l'outbound, de l'automatisation, de tout ce qui était création de boucles, de nurturing par email, etc. Donc des choses très mécaniques, très transactionnelles et très, très actionnables, très mesurables, qui avaient finalement une efficacité quasi instantanée. Finalement, quand on fait du Google Ads, c'est génial parce qu'on a directement des clics qu'on peut mesurer, voire des conversions vers des ventes. Et donc, je pense que les entreprises, notamment les startups, se sont vachement concentrées sur ces canaux d'acquisition rapide par impératif de croissance rapide, parce que par besoin de développer très rapidement une clientèle et de pérenniser leur modèle économique. Et du coup, qu'elles ont un peu mis de côté les impératifs de l'inbound et la stratégie inbound justement qui consiste quand même à créer et développer des machines de conversion, d'acquisition, de rétention dans la durée qui prennent parfois plusieurs années à avoir un véritable impact, une véritable efficacité. Et je pense que c'est limite aussi représentatif de notre époque. On a été très longtemps concentré sur l'instantanéité et la gratification instantanée. Finalement, les réseaux sociaux, c'est un peu le parangon de cette obsession qu'on a de la gratification instantanée. Quand tu ouvres ton Insta, tu as ton shot de dopamine et tout à titre individuel. Et pour les entreprises, c'est pareil. Quand tu fais du ads ou de l'outbound, tu as généralement très rapidement des résultats. Même si ces résultats finissent par s'essouffler et que tes coûts d'acquisition finissent par augmenter. Et donc, je pense que c'est pas forcément... à mon sens, c'est plutôt pour ça que la communauté n'a pas été un levier sur lequel la grande majorité des entreprises a parié ces dernières années, parce que c'est quelque chose qui demande du temps, de la compétence, une ressource à allouer à l'animation de la commu, et que c'est quelque chose qui met quand même un peu de temps à vraiment créer des dynamiques qui marchent et qui ramènent cette valeur qu'on a pour objectif.
C'est intéressant cette temporalité, et je vais conclure là-dessus, mais c'est intéressant cette temporalité parce qu'on a réussi à ne pas prononcer le mot IA depuis le début de cet épisode, mais je le fais maintenant du coup. Évidemment qu'on s'attend tous, personne ne connaît le futur, même à 6 mois là tout de suite, mais enfin, on s'attend tous à ce qu'il y ait beaucoup de bouleversements, et notamment en marketing, et notamment dans le lien et le rapport entre la marque et son client. On s'attend bien sûr à ce que les choses bougent assez fortement, assez rapidement, qu'on soit tous un petit peu chamboulés. Est-ce que cette notion de temporalité qu'on a eue là sur les dernières années, et notamment avec les startups qui, comme tu le disais, avaient besoin de rapidité parce que c'est le modèle économique qui veut ça, et ben peut-être que on arrive à un moment donné où ça va s'inverser parce que ben, on va avoir de plus en plus besoin de cette authenticité, de cette humanité, de s'assurer qu'on est face à des vrais gens et d'avoir ce relationnel humain. On reste des êtres humains qui ont besoin ben, de relations entre eux. Peut-être que on va voir un... Alors je fais ma dernière main hein, quand je dis ça. On verra dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Mais peut-être qu'on va avoir un renversement un petit peu du cycle et on va repasser sur des temps plus longs. Ça m'arrangerait sur l'inbound marketing, je te cache pas que je suis plutôt pour. Mais c'est vrai que cette arrivée des IA va peut-être, en fait, avec cette accélération très très forte de l'IA, va peut-être nous amener à l'inverse et à ralentir les choses pour finalement contrebalancer. Et là, les communautés vont prendre probablement tout leur sens. Tu nous le disais, pourquoi est-ce que c'est important d'avoir une communauté, ben notamment parce que tu as cette relation forte et cette véritable authenticité, cette véritable humanité finalement, relation humaine qu'on ne va pas retrouver nécessairement dans la relation purement commerciale.
Carrément, c'est très bien dit et tu abordes un sujet hyper important qui est celui de la résilience. Je pense que de manière plus globale, encore une fois, alors je peux aussi donner des exemples, hein, je suis désolée, cet épisode a été très méta finalement et assez théorique, mais on est quand même dans une époque qui a connu un paquet de crises de différentes natures. Le pouvoir d'achat n'est pas au mieux de sa forme. L'inflation, elle, en revanche,
elle augmente,
elle se porte bien. Et du coup, tout ça, c'est des paramètres qui peuvent paraître loin quand on crée une stratégie marketing, mais qui sont hyper importants parce que on n'est plus dans cette phase de l'ultra-croissance, du growth. Enfin, bien sûr, le growth, le marketing outbound, je ne pense pas qu'ils vont disparaître, mais je pense qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il faut parier sur le court terme, mais aussi sur le long terme, et c'est hyper important de se mettre le plus tôt possible à construire des fondations solides. C'est un peu comme les trois petits cochons. En fait, ces dernières décennies, c'était OK de construire des maisons en paille parce qu'en fait, il n'y avait pas de vent et il n'y avait pas de loups. Mais aujourd'hui, il y a pas mal de loups. Et donc, du coup, il faut aussi... tu peux utiliser de la paille, mais juste fais du torchis. Cette métaphore va beaucoup trop loin.
J'aime beaucoup.
J'ai vraiment pas le sens pratique des choses. Mais en tout cas, ce que j'essaye de dire, c'est qu'il faut aussi penser à créer des briques solides et qui vont en fait pérenniser les structures du modèle de l'approche et de la stratégie et qui vont aussi finir, et ça, c'est la beauté de la communauté, par être auto-alimentées. Et je pense que pour donner des exemples concrets, il y a des industries qui se sont relevées de crises ou de difficultés en s'appuyant sur la communauté. Et ça, c'est un chapitre que j'aborde dans mon livre « Minute autopromo ». C'est typiquement, je pense, à l'industrie des médias qui a quand même essuyé pas mal de tempêtes ces dernières années et dont le modèle économique a été mis à mal par justement tout ce qui était les GAFAM. Et qui, du coup, aujourd'hui, se réinvente entièrement à l'aune des modèles communautaires, que ce soit des modèles de membership ou des modèles un peu plus poussés de crowdfunding, de levée de dons, etc. Aujourd'hui, le lectorat n'est plus un simple lectorat passif, c'est justement, pour plein de médias, en tout cas ceux qui s'en sortent le mieux, une communauté qui est animée, qui est engagée à travers plein de formats, plein de supports, plein de contenus, et qui, du coup, a un attachement émotionnel, pérenne et beaucoup plus fort aux médias qui a réussi à créer cette dynamique et qui du coup est prêt à le soutenir. Je pense aux nouveaux médias, je pense New York Times bien sûr, mais aux nouveaux médias comme Reporter, Le Média Vivant, Arte, enfin il y en a plein et il y a plein d'exemples dans le livre de types de formats comme des concerts à ciel ouvert, des quiz, des séances de vote ou d'appel à la communauté, aux suggestions, etc., qui permettent d'engager le lectorat et de le faire glisser doucement vers un statut de membre d'une communauté et qui est hyper intéressant et qui, je trouve, illustre bien les enjeux des années à venir, qui sont de continuer à avancer et à croître, certes, mais aujourd'hui, de toute façon, on questionne la finalité de la croissance, que ce soit par obligation ou par engagement et par conviction. La communauté, ça permet d'ouvrir la porte vers la question de la résilience, mais aussi de la raison d'être. Ça, on n'en a pas parlé dans l'épisode, mais c'est quelque chose d'important. Finalement, plus on est proche des gens qui sont soit notre audience ou notre clientèle, plus on va se rendre compte de l'impact qu'on a sur ces gens et de de la finalité de nos produits, de nos services.
Voilà, écoute, ce sera l'occasion de faire un deuxième épisode parce qu'on n'arrive pas à s'arrêter de parler de communauté. Merci infiniment, Noémie. C'était ultra passionnant tout ce que tu as pu nous apporter sur les communautés. Je ne pensais pas qu'on allait aller aussi loin. C'était vraiment super intéressant. Merci beaucoup.
Je
sais que tu as plein d'autres choses à partager sur la communauté, notamment dans ton livre. Est-ce que tu peux nous redonner le titre de ton livre qui vient de paraître et nous dire où est-ce qu'on peut le trouver ?
Bien sûr. Donc, le livre s'appelle « Le pouvoir des communautés ». Il a été publié aux éditions Erol et il est disponible notamment sur Amazon, en librairie. Je ne sais pas exactement lesquelles, mais on pourra le repréciser. Et puis, vous pouvez aussi trouver une page dédiée à la commande du livre sur le site communo.club, qui est donc le site de Communo, comme son nom l'indique, sur lequel vous trouverez aussi des ressources gratuites, un blog, un podcast, une newsletter, si vous avez envie de creuser le sujet des communautés. Mais je vous invite à lire le livre si le cœur vous en dit, parce que j'y ai vraiment mis un petit bout de moi et beaucoup de convictions et beaucoup de conseils très actionnables.
Eh ben super, je mettrai évidemment le lien, toutes les références sur les notes de l'épisode. Bravo Noémie pour ce livre. Je sais à quel point c'est impliquant que d'écrire un livre, donc je te félicite et écoute, plein de succès. Allez lire ce livre, allez demander à votre libraire de le référencer, parce que c'est aussi ça, quand on est indépendant, il faut aussi que la communauté justement aille demander. Donc faites-le, allez dans votre librairie, allez demander le livre de Noémie, vous ne serez pas déçus, vous allez apprendre plein de choses. Merci beaucoup Noémie, 2 ans après, on y arrive avec cet épisode. Tu reviens évidemment quand tu veux, puis j'espère avant 2 ans.
Merci à toi pour ton invitation et cette conversation, c'était passionnant.
Merci infiniment Noémie pour nous avoir éclairé sur l'importance des communautés et surtout l'impact qu'une communauté va avoir sur notre marque. Donc il n'y a plus de questions à se poser évidemment, il va falloir construire, abreuver, nourrir notre communauté. Je rappelle à tout le monde, si vous êtes intéressé par ce sujet des communautés, je rappelle que Noémie vient de sortir un livre sur le sujet, ça s'appelle « Le pouvoir des communautés ». Foncez, l'achetez, vous allez tout comprendre. Il y a plein de cas d'usage, plein d'exemples, plein de choses qui vont vous permettre de construire une communauté encore plus forte pour votre marque. Si vous avez aimé cet épisode et si vous aimez le podcast du marketing en général, je vous invite à rejoindre la newsletter du podcast du marketing. Dans cette newsletter, une fois par semaine, je vous parle du podcast, évidemment, mais je vous donne aussi mes bons plans. Vous recevez dans votre boîte email directement tous les cadeaux bonus. Et puis, vous avez aussi un petit peu de ce qui se passe dans ma vie, moi, mon œuvre et moi-même. Donc, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le podcast du marketing et puis un petit peu sur moi aussi, c'est très simple. Il suffit de s'abonner à la newsletter. On est presque 10 000. C'est complètement dingue. Donc, pour le faire, il suffit d'aller sur lepodcastdumarketing.com/newsletter. Je vous dis à très vite.